dans la population commando, on veut plutôt des personnes qui sont capables de surmonter un échec ou une difficulté. En tout cas, qui n'abandonnent pas, qui n'abandonnent jamais. Et ça, on a l'occasion de le tester au stage commando parce qu'on met souvent nos stagiaires sous pression. L'objectif, ce n'est pas de sélectionner le meilleur, c'est d'être sûr que tous ceux qui sont là sont capables de surmonter des difficultés, sont capables de rester en équipe solidaire de leurs camarades, même quand ils sont dans le dur, quand ils sont en difficulté. On ne veut pas de perso non plus, j'ai oublié de le préciser, mais l'esprit perso, le gars qui est champion mais dans son coin, ça ne nous intéresse pas. Parce que de toute façon, les missions sont toujours plus fortes que lui. Et, il y a toujours un moment où il sera en difficulté. Et ce jour-là, on a besoin qu'il puisse s'appuyer sur ses camarades, qu'il puisse donner le peu qu'il a à l'équipe pour que l'équipe surmonte la difficulté. Et l'équipe, en surmontant la difficulté, d'ailleurs, l'aidera, lui, à surmonter lui-même ses propres difficultés.
Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast qui traite des questions de défense et de sécurité, à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes à Lorient avec l'amiral Pierre de Briançon. Ce marin, à la carrière bien remplie, a servi de nombreuses années au sein des commandos marines, et notamment au célèbre commando Hubert. Après 33 années de service, il est aujourd'hui à la tête de la force maritime des fusiliers marins et commandos, la Forfusco. Avec lui, nous reviendrons sur le parcours pour intégrer cette prestigieuse unité, reconnue comme une des meilleures du monde, les qualités requises pour réussir le stage commando, et la place de la Forfusco dans les missions confiées au commandement des opérations spéciales. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à Lorient, à l'état-major des forces maritimes des fusiliers marins et commandos, avec l'amiral de Briançon. Amiral, déjà, merci beaucoup de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors, je suis l'amiral Pierre de Briançon. Je suis l'amiral qui commande la force des maritimes des fusiliers marins et commandos. Et j'ai eu un parcours assez diversifié dans la marine, plutôt tourné sur les opérations. Je suis rentré à l'école navale en 1989 et après avoir servi sur un petit patrouilleur à Tahiti, je suis rentré dans les commandos, j'ai servi au commando de Montfort après avoir réussi le stage commando et ensuite j'ai fait le cours nageur de combat et donc je suis rentré au commando Hubert où j'ai gravi tous les échelons, je suis passé de chef de groupe, dans les différents groupes d'ailleurs, après officier opération, après commandant second et jusqu'à commander le commando Hubert. Par la suite, j'ai pu faire l'école de guerre en Espagne et après un passage en état-major à Paris, j'ai été embarqué sur différents bateaux de la marine et j'ai eu la chance de commander une frégate furtive, le Gepprat, et un porte-hélicoptère amphibie, le Dixmude. Voilà, depuis, j'ai encore servi à Paris en état-major au centre de planification de conduite des opérations, comme chef J3, et après auprès du chef d'état-major de la marine comme conseiller, comme en tant que, enfin, j'étais chef du bureau Stratpol, donc stratégie et politique. Et enfin, me voilà à Lorient pour mon plus grand plaisir, et une grande fierté bien sûr également.
Juste avant de revenir sur la partie Forfusco, vous êtes le commandant de la place. Il y a beaucoup de choses en fait. Vous avez une base aéronavale.
Alors, la marine, il y a quelques années, avait un commar qui n'avait que cette fonction, en fait, qui n'assurait que cette fonction. Commar, le commandant de la marine en un endroit particulier, donc en l'occurrence Lorient ou le Grand Lorient. À l'époque, il y avait les commandos marines, l'école des fusiliers marins, les bateaux qui étaient affectés dans le port de Lorient, les sous-marins qui étaient affectés dans le port de Lorient, et la base aéronavale de Lannemiway. Les bateaux et les sous-marins n'existent pas à Lorient, il n'y en a plus en service. En tout cas, les frégates sont en construction à Lorient, mais quand elles sont construites, quand elles sont achevées, elles quittent Lorient pour aller dans un port d'attache qui est souvent Brest ou Toulon ou ailleurs. Et donc la marine s'est réduite un peu, j'allais dire comme peau de chagrin, quand même pas, parce qu'il y a à peu près 4000 marins sur le Grand Lorient, mais en tout cas, il n'y a plus de Comar en titre. Et donc, c'est Alfusco qui a repris le titre de Comar. Donc, je suis Alfusco et Comar Lorient. Donc, à ce titre-là, j'exerce un certain nombre de responsabilités territoriales vis-à-vis des commandos, de l'école des fusiliers marins et de la base de Lannemiway qui est à proximité.
Alors, pour revenir sur la force maritime, comment on devient Alfusco ? On est forcément issu des commandos plutôt d'Hubert. Votre prédécesseur était d'Hubert déjà ou
Non, pas du tout. Mon prédécesseur n'était pas commando. C'était un pilote de l'aéronautique navale.
D'accord.
Alors c'est arrivé, voilà. Il y a tout. Il y a parfois des commandos, parfois des non-commandos. Il y avait même une alternance un peu. Alors moi, je vais prêcher par ma paroisse et je pense que c'est pas mal de mettre un commando en tant qu'alfusco. C'est ce que ça donne, à mon avis. Le parcours dans les commandos donne une bonne légitimité vis-à-vis des hommes qui composent la force. Alors je ne dis pas que mes prédécesseurs non-commando n'ont pas bien fait le travail. Je suis même persuadé qu'ils ont très bien fait le travail. Mais quand je vois en quoi consistent nos responsabilités en tant qu'alfusco, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, en tout cas, d'avoir été commando auparavant, pour parler d'un certain nombre de sujets, pour parler même de sujets très techniques sur l'emploi des forces en opération et du développement capacitaire, de réorganisation de la force. En tout cas, ça donne une crédibilité parce qu'on est passé par les mêmes filtres que les hommes qui composent la force. Et donc, dans les discussions, on ne peut pas nous reprocher de ne pas connaître la force, même si les choses évoluent, bien évidemment. Mais en tout cas, on peut aussi arguer de notre ancienneté et de notre expertise professionnelle pour avancer un certain nombre d'idées et parfois imposer un certain nombre d'idées à la majorité qui ne serait pas forcément d'accord. Ça peut arriver parfois. C'est ça le commandement.
Alors, c'est quoi justement les forces fiscales ? Est-ce que vous pouvez nous présenter ça
La Force Fusco, comme son nom l'indique, rassemble les fusiliers marins et les commandos. Alors, les fusiliers marins, ce sont des marins qui ont pris la spécialité de fusilier, au même titre qu'ils auraient pu être détecteurs sur un bateau de la marine ou artilleurs, ou toutes les spécialités différentes qu'il y a dans la marine. Ils choisissent la spécialité de fusilier marin. Et le travail de fusilier marin consiste à défendre les implantations sensibles de la marine. Donc les grands ports essentiels comme Brest, Toulon, mais également Cherbourg, également l'île Longue. Et ensuite, les fusiliers marins défendent également toutes les implantations qui sont liées à la dissuasion nucléaire de la marine. Et donc toutes les stations de transmission qui sont réparties à travers la France. Également, les fusiliers marins peuvent être envoyés en renfort sur les bateaux pour renforcer les équipages, pour participer à des missions de lutte contre des trafics, lutte contre la pêche illicite, contre le narcops, contre le trafic de migrants, voire pour aider à assurer leur protection quand ils passent dans des endroits resserrés, comme à Bab-el-Mandeb ou ailleurs, aider à leur protection en escale quand les bâtiments de la marine font des escales dans des pays un peu risqués, si je puis dire. Ils peuvent demander à se faire renforcer pour leur sécurité par des fusiliers marins. Voilà. Et en plus de ça, les fusiliers marins assurent un certain nombre de missions à l'extérieur, à Djibouti ou dans les territoires outre-mer, dans des installations d'importance particulière pour la marine. Et donc finalement, en Martinique, à Papeete, à Nouméa et à La Réunion. Et voilà. Et dernière chose, ils peuvent être employés pour des opérations extérieures. Et ça a été le cas pour la mission Takuba. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mission Takuba, mission européenne déployée au Mali, qui consistait à aider les forces maliennes à contrer les groupes terroristes au Mali. Et donc, les fusiliers marins étaient utilisés là-bas, notamment pour assurer la défense d'une des implantations de Takuba. Et qui dit défense, dit patrouille au large. Au large, j'utilise un terme de marin volontairement. Au large, c'est-à-dire que ce n'est pas de la garde statique dans une base. Il s'agit bien d'aller au-delà de la menace, enfin d'aller au-delà des défenses, enfin des défenses statiques pour aller tester la menace sur les extérieurs. Donc, un vrai travail dynamique. C'était très intéressant pour eux. Et ça, ce sont les fusiliers marins, voilà, et donc les commandos marines. Alors, c'est une autre population. Enfin, à la base, ce sont des fusiliers marines à qui on a proposé de faire un stage qui s'appelle le stage commando, STAC, stage commando, et qui leur permet après d'accéder dans des commandos, dans des unités commando de la marine. Et ces commandos-là, eux, ces unités, ont pour mission de toutes les opérations spéciales confiées au commandement des opérations spéciales, au même titre que la composante de l'armée de terre ou que la composante de l'armée de l'air et de l'espace. Donc, ils participent largement à ces opérations-là. Et en plus de ça, ces commandos peuvent être utilisés pour toutes les missions d'action de l'État en mer lorsqu'elles sont un peu risquées, un peu chaudes, je dirais, un peu sensibles. Tout à l'heure, je disais que les fusiliers marins pouvaient renforcer les équipages de bateaux pour participer à des opérations de narcops ou de police des pêches. Quand ces opérations deviennent trop violentes avec donc nécessitent une maîtrise supplémentaire d'un certain nombre de capacités, on fait appel à des commandos. Voilà. Et donc les commandos sont largement utilisés dans ces opérations-là. De même que les commandos sont utilisés dans une mission spécifique qui s'appelle le contre-terrorisme maritime, aux côtés du GIGN, de la gendarmerie. Et donc ce sont les commandos qui assurent l'alerte et les interventions pour ces missions-là, donc de reprendre des bateaux qui auraient été pris par des terroristes en mer. Et dernière chose, les commandos peuvent être utilisés pour des missions, je dirais, cette fois un peu plus maritimes, comme tout ce qui est lié aux opérations amphibies, où il s'agit de faire des reconnaissances, s'assurer que les bateaux peuvent beacher sur des plages sans risque de mines, sans neutraliser un certain nombre de défenses avant que les bateaux arrivent sur les plages. Et donc ça, ce sont des opérations qui sont liées à toutes les actions amphibies, et là, les commandos peuvent être également utilisés.
C'est quoi la place aujourd'hui de la force FUSCO au sein du COS ?
Alors, la force FUSCO au sein du COS, alors, c'est la force FUSCO, effectivement, mais c'est la composante des commandos, qui est donc 700 personnes qui sont mis, je dirais, à disposition du COS pour remplir les missions qui sont confiées au COS. Il y a une position d'équilibre. C'est un équilibre savant avec les autres composantes. Voilà. Un partage, je dirais, en bonne intelligence, des missions pour que tout le monde soit occupé au bon niveau et qu'on puisse, par ce biais-là, travailler aussi l'interopérabilité entre les différentes composantes, la complémentarité. Et qu'on réponde de façon efficace, bien évidemment, aux missions du COS. La question, ce n'est pas que de se faire plaisir. C'est une évidence, mais je le rappelle. C'est la première chose, c'est de répondre avec les bonnes capacités pour pouvoir remplir les missions du COS. Et les commandos offrent un certain nombre de capacités, pour certaines communes, je dirais, aux autres composantes des armées françaises, et pour d'autres un peu spécifiques.
Justement, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui différencie les commandos du CPA-10 ou des gens du 13 ou du 1er ?
Alors, chaque composante a un peu ses spécificités. Et je ne vais pas vous surprendre en disant que la spécificité des commandos, c'est d'être capable d'agir en mer, dans l'eau. Donc, en mer, pour réaliser des missions en mer ou depuis la mer, pour réaliser des opérations vers la terre. Voilà la spécificité, si je devais la résumer. Et donc, ça nécessite un certain nombre de savoir-faire, d'équipements. Nos équipements doivent être étanches, supporter l'air marin, enfin, l'air et l'eau marine, le sel. Ça nécessite de savoir évoluer dans cet élément qui est la mer, en surface, avec des zodiacs à la palme, en kayak, ou sous l'eau, avec des appareils de plongée adaptés et des engins sous-marins qui nous permettent d'aller plus vite, d'emmener du matériel, un peu comme des petits sous-marins, en fait, des mini-sous-marins. Toute cette partie subaquatique, d'ailleurs, est un peu la spécificité du commando Hubert. Le commando Hubert, c'est une des unités commando et c'est celle qui regroupe les nageurs de combat de la marine.
Alors, je fais une petite digression, justement, parce que vous parliez d'Hubert. Est-ce que ça en fait un commando à part au sein de la force FUSCO, le fait d'être le seul avec des nageurs ?
Alors, le commando Hubert, forcément, oui, il y a plusieurs choses qui font qu'il est un peu à part. C'est qu'il est d'abord, il n'est pas basé au même endroit que les autres commandos. Il est à Saint-Mandrier, tandis que les autres commandos sont basés à Lorient. Donc forcément, il est un peu à part, géographiquement. Et l'autre aspect, c'est qu'il est composé de nageurs de combat et donc développe des savoir-faire très spécifiques par rapport aux autres commandos.
On passe d'un commando à Uber ou on peut, après le stage, directement intégrer Uber? Comment ça se passe?
Alors, pour aller au commando Uber, en fait, une fois qu'on est commando, il faut suivre le cours nageur qui dure 7 mois à l'école de plongée, qui est un cours qui apprend en fait à plonger à l'oxygène pur ou au mélange suroxygéné, qui est un stage très éprouvant dans la durée. Vraiment, on va beaucoup, beaucoup dans l'eau. Très éprouvant moralement et physiquement. Et à l'issue de ça, si on en sort, on est affecté au commando Uber. À l'issue d'une affectation au commando Uber, on peut retourner en commando, parce que les nageurs de combat, bien évidemment, peuvent continuer à faire leur travail de commando. D'ailleurs, ils font du travail de commando à Uber, mais ils peuvent continuer à le faire dans un commando à Lorient, et ensuite revenir à Uber. D'ailleurs, ces échanges de personnel sont plutôt beaux, bons, bien évidemment, pour entretenir la connaissance réciproque, et puis c'est bon pour les relations.
Alors on parlait jusqu'à de complémentarité avec les autres unités du COS. Est-ce qu'il y a des rivalités?
Des rivalités, j'utiliserais un mot un peu moins fort. Il y a une saine émulation. Mais il y a clairement une saine émulation, mais elle est très positive. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup au contact des autres quand on voit qu'ils ont pris un peu d'avance, qu'ils ont un équipement plus adapté, qu'ils ont réussi à trouver une nouvelle procédure, et donc ça nous pousse, ça nous motive pour faire mieux, ça nous challenge et ça nous tire vers le haut. Mais on se tire mutuellement vers le haut. Je pense que peut-être qu'il y a quelques années, tout au début, la création du COS, quand les unités ne se connaissaient pas encore, il y a peut-être un peu de rivalité. En fait, on se regardait un peu en chien de faïence. Maintenant, je pense que ces années-là sont passées. On a fait suffisamment de missions ensemble. On a connu suffisamment de galères ensemble. On a connu, les unités ont connu le feu ensemble pour devenir des vrais frères d'armes. Donc, plutôt que de la concurrence, il y a de l'émulation et une complémentarité.
L'Afghanistan a été un tournant sur la complémentarité des missions. On a finalement vu sur le terrain les trois composantes plus régulièrement et souvent plus ensemble
Alors l'Afghanistan a été le premier vrai théâtre. Enfin, c'était la première fois que les trois composantes que toutes les composantes étaient colocalisées et travaillaient ensemble dans la durée. Donc oui, ça a beaucoup contribué à créer cet esprit force spéciale. J'allais dire esprit de corps, presque esprit de corps, mais sachant qu'un corps, enfin l'esprit de corps, c'est pour les commandos, c'est pour le 1er PIMA, le 13e RDP, le CPA10, enfin voilà un corps. Mais on peut dire un esprit force spéciale à la française. Et ça, c'est en grande partie l'Afghanistan qui l'a permis. Avant, il y avait déjà eu des missions, mais pas aussi régulières et pas communes de cette façon-là, partagées de cette façon-là.
C'était Arès, hein, c'est ça?
C'était Arès. Ouais, première mission, c'était Arès.
Justement, à propos de ces missions, comment se fait le choix de l'unité qui va intervenir, ou de la composante qui va intervenir? C'est le CPCO qui décide? Est-ce que vous intervenez là-dedans en disant bah, « nous, ça, on sait peut-être plus faire » ou « moins, ça serait peut-être mieux qu'on se mixe comme ça »
Alors, d'abord, ce n'est pas le CPCO, c'est le COS, le Commandement des Opérations Spéciales, qui va décider de la composition d'un détachement, mais il y a forcément une discussion, un dialogue préalable entre le COS et les différentes composantes, ne serait-ce que pour savoir qui est disponible, qui et avec quel équipement et quelle capacité est disponible, même si on doit tenir des alertes. Donc le COS peut choisir d'envoyer les équipes d'alerte, mais peut aussi décider de constituer un détachement de toutes pièces et comme un puzzle, de prendre des pièces qui viendraient de différentes composantes pour faire la meilleure équipe possible.
Dans ces cas-là, comment se décide le lead? C'est en fonction du nombre de personnes qui la composent
Oui, ça peut se faire de façon assez naturelle en regardant le nombre de personnes qui composent le détachement. Et donc, naturellement, de dire c'est cette composante qui va prendre le lead. Ça peut être une espèce de logique de milieu, même si on n'aime pas beaucoup ça, parce qu'on préfère avoir une intelligence de situation à chaque fois. Mais on peut considérer que si c'est une opération qui se passe en mer, ça sera plutôt au commandement des commandos. Et on peut dire un peu la même chose pour d'autres milieux. Et ensuite, il y a aussi une volonté de faire tourner. Et pas uniquement pour faire plaisir, mais pour entretenir les capacités de commandement de chaque composante. Et puis parce que la force du commandement des opérations spéciales, c'est en grande partie la diversité de ses opérateurs et de ces différentes composantes. Et donc, le fait de changer régulièrement apporte des nouvelles choses, des nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de faire. Et c'est toujours intéressant.
On va parler un petit peu maintenant d'entraînement, Amiral, si vous voulez bien. Et déjà, sur un terme dont vous avez souvent parlé, c'est l'aguerrissement. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit toujours, on a toujours entendu ça, que la nouvelle génération, et ainsi de suite, et à chaque génération, était enclin à avoir ces périodes d'aguerrissement. Est-ce que vous pensez que, justement, les jeunes d'aujourd'hui le subissent plus, ou c'est une question d'état d'esprit, d'encadrement, vous qui voyez le stage commando, qui est quand même un stage qui est réputé comme extrêmement difficile? Est-ce que les jeunes ont changé? Est-ce qu'ils s'aguerrissent plus ou moins? Est-ce que c'est plus facile ou pareil qu'avant pour eux? Ou plus dur?
Alors moi, bien sûr que les jeunes ont changé, mais je vais surtout bien me garder de dire qu'ils sont devenus moins bons. Non, ils ont changé. Donc ils sont meilleurs sur certains points et peut-être un peu moins sur d'autres, parce que c'est difficile d'être bon dans tous les domaines. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'au stage commando, pour l'instant, on applique nos barèmes et nos critères de sélection sans les modifier depuis l'origine. En fait, notre stage commando s'appuie sur un certain nombre d'épreuves qui sont les épreuves qui ont été inventées pendant la guerre mondiale. C'est-à-dire nos grands anciens qui étaient en Écosse et qui sont devenus les premiers commandos nous ont inculqué ça de génération en génération, je dirais. Et nous, on en est les descendants et on prolonge cette façon de faire. C'est un peu notre héritage. On s'est posé parfois la question de savoir s'il fallait modifier ces épreuves, qui sont plutôt physiques et donc aussi morales. On s'est demandé s'il fallait modifier. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. On tient bon là-dessus. Peut-être qu'on sera obligé de les modifier si les jeunes ne correspondent plus tout à fait aux mêmes critères. Et alors là, ça sera un peu des critères physiques et de rusticité. Vous avez pris le terme tout à l'heure, la rusticité, très important. Je ne pense pas faire injure aux jeunes de maintenant en disant que les jeunes de maintenant sont moins rustiques que les poilus de la guerre de 14-18. Donc, ce n'était pas des commandos à l'époque, mais ils étaient rustiques. Voilà, volontairement, je fais un grand écart pour montrer qu'on a tous évolué. Nos jeunes sont plus citadins. Et donc, il y a toujours une période d'adaptation, sans doute, à ce que nous, on recherche. Et on recherche des gars qui sont non pas des champions du monde de course, ou des sportifs de haut niveau, mais plutôt des gars rustiques et physiques. Et moralement, solides. Alors, il faut quand même courir un peu vite, savoir faire des pompes et des tractions, et être performant sur des parcours. Des parcours adaptés, des parcours commando, des parcours jungle, des parcours assaut, enfin voilà, tout un tas d'épreuves à faire comme ça. Donc, je ne vais pas cacher le fait que ça reste des sections très physiques et sportives, mais... il faut passer un certain seuil. On ne demande pas à ce que ça soit le meilleur du monde. Voilà. Le meilleur du monde, souvent, il est un peu fragile. On voit parfois des triathlètes ou des sportifs de haut niveau arriver, pousser notre porte. Bah, certains sont très forts, parce que aussi très rustiques, et donc ça va très bien pour eux. D'autres sont un peu trop fragiles. Et ils n'ont pas compris qu'en fait, on ne voulait pas de gars fragiles. Il faut quelqu'un qui soit capable de courir, même quand il a mal. D'être un peu solide face à quelques épreuves, quelques chutes, quelques savoir-faire du sport de combat. Enfin, on veut un profil assez complet. Voilà. Et je n'ai pas encore abordé l'aspect moral, mais qui est très important. Finalement, on veut, dans la population commando, on veut plutôt des personnes qui sont capables de surmonter un échec ou une difficulté. En tout cas, qui n'abandonnent pas. Qui n'abandonne jamais. Et ça, on a l'occasion de le tester au stage commando, parce qu'on met souvent nos stagiaires sous pression. L'objectif, ce n'est pas de sélectionner le meilleur, c'est d'être sûr que tous ceux qui sont là sont capables de surmonter des difficultés, sont capables de rester en équipe, solidaires de leurs camarades, même quand ils sont dans le dur, quand ils sont en difficulté. On ne veut pas de perso non plus, j'ai oublié de le préciser, mais l'esprit perso, le gars qui est champion mais dans son coin, ça ne nous intéresse pas. Parce que de toute façon, les missions sont toujours plus fortes que lui. Il y a toujours un moment où il sera en difficulté. Et ce jour-là, on a besoin qu'il puisse s'appuyer sur ses camarades, qu'il puisse donner le peu qu'il a à l'équipe pour que l'équipe surmonte la difficulté. Et l'équipe, en surmontant la difficulté, d'ailleurs, l'aidera, lui, à surmonter lui-même ses propres difficultés. Sachant qu'à la fin, la vraie finalité, c'est de remplir la mission en équipe.
Ça peut aller jusqu'au bout. Vous disiez lors d'un colloque que l'esprit d'équipe, il allait très loin chez le commando. Le nageur, c'était matérialisé par sa ligne d'avis, mais si son équipier coulait, il ferait tout pour le sauver jusqu'à même couler avec lui. Ça vient du stage commando et de tout ce parcours qui a fait qu'il y a un esprit de corps et d'équipe qui fait que voilà, on peut aller jusque-là.
Ah oui, bien sûr. C'est vraiment l'état d'esprit recherché. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous inculte tout petit, à peine arrivé. Donc, stage commando, même si ce sont des épreuves individuelles, on est quand même testé sur notre esprit d'équipe. C'est en permanence, il y a aussi des épreuves en équipe, il y a des choses à accomplir en équipe. Et il faut, il faut bien sûr être dans cet esprit en permanence. Et on nous apprend qu'au combat, de toute façon, seul, on ne fera rien. C'est l'équipe qui fera, c'est l'esprit d'équipe, c'est la puissance de l'équipe qui fera qu'on sortira vainqueur de l'épreuve. Et au stage commando, on continue tout à fait sur cette ambiance-là. Et alors l'équipe, elle peut être réduite au binôme. Et en l'occurrence, c'est ce binôme très fort au cours nageur où on est sanglé. Donc on désigne un binôme et c'est le binôme qu'on aura pendant toute la durée du stage, pendant 7 mois. Donc on va vivre avec lui. Et on va passer la plupart du temps accroché avec lui quand on est dans l'eau. Pour dire que c'est important, quelqu'un qui détache sa sangle de vie au cours nageur, il est viré dans la foulée. C'est la dernière des choses à faire. C'est-à-dire que c'est même pas à faire, en fait. Ça n'existe pas. On ne le fait pas. Voilà, tout simplement. Et donc, ce que vous avez dit en préambule, c'est vrai. C'est-à-dire que soit on meurt tous les deux au fond, soit on monte tous les deux à la surface. Mais il n'y aura pas d'intermédiaire.
Donc vous vous souvenez encore parfaitement de votre binôme au cours nageur.
Bien sûr, bien sûr. Et ça nous rapproche. Mais même malgré parfois les différences de caractère, et souvent les binômes sont constitués volontairement avec des personnes qui ne s'apprécient pas forcément ou qui n'ont pas forcément le caractère. C'est fait exprès. La force du binôme doit aller largement au-delà de ça. C'est ça la force.
Est-ce que le commando, il est plus résilient que militaire des forces conventionnelles?
Alors, plus résilient. Moi, je ne vais pas faire une généralité. En moyenne, je dirais que oui. La moyenne des commandos est sans doute plus résilient que la moyenne des combattants classiques. Si vous devez parler des marins, par exemple, oui, je pense que les commandos marines sont globalement plus résilients que les marins, mais chacun son métier d'une certaine manière. Mais c'est une moyenne, hein, parce que bien sûr, on va trouver des marins très résilients et peut-être des commandos un peu moins. Mais ce qui fait surtout la spécificité des commandos, je dirais, et là je reprends un peu la devise du COS, faire autrement. Donc voilà, ce qui fait un peu la spécificité des commandos, c'est faire autrement. C'est-à-dire pas rester bloqué sur des choses, être souple, être réactif, trouver des solutions, même quand on n'en voit pas. Et c'est bien ça. Donc sortir des cadres, tout en étant rigoureux. Je n'ai pas du tout dit le contraire. Hein. C'est-à-dire qu'on applique des procédures, on applique des process, on est très d'ailleurs méthodique sur nos méthodes de réflexion, sur nos méthodes d'élaboration des modes d'action qu'on va réaliser pour conduire une opération, une mission. On va répéter des gestes, on va s'entraîner à plusieurs, on va faire des restitutions pour être sûr qu'on s'est tous bien compris, qu'on dit tous bien la même chose. Et une fois que la mission est partie, on va essayer de restituer exactement ce qu'on a prévu. Malheureusement, les missions ne se passent jamais comme c'est prévu. La mission telle qu'on l'a préparée, c'est le premier mort de la guerre, c'est ce qu'on dit toujours. Donc après, il va falloir s'adapter. Et c'est là que l'esprit un peu débrouillard des commandos va faire son effet. Et les commandos sont débrouillards. Maintenant, heureusement, ils sont débrouillards à peu près tous dans le même sens. Donc ce qui fait que même quand on travaille sans filet et qu'on n'est plus dans ce qu'on avait prévu, on arrive à se comprendre. Et souvent, on arrive à ne pas être surpris et donc à aller tous dans la même direction.
Vous parliez du stage commando et qui avait finalement assez peu bougé depuis l'Écosse. On a l'impression que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, que les commandos marines sont très attachés à ça. Est-ce que vous regardez quand même ce que font les autres unités du COS en termes de formation initiale et voire même aussi sur d'autres unités à l'étranger?
Alors oui, Bien sûr, on cherche à faire évoluer nos entraînements, nos procédures, nos équipements. Et donc, on se tourne beaucoup vers les unités extérieures. Alors, d'abord, au sein des forces spéciales, avec les autres composantes, bien évidemment, en échange, mais également auprès de nos équivalents des forces, enfin de pays étrangers. Donc, en particulier, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Italie, qui sont les forces avec lesquelles on a le plus de liens. Et ensuite, on peut tirer du rétexte de tout ce qu'on peut observer à travers les théâtres d'opération, les guerres, les conflits dans le monde. Là, on observe par exemple avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Ukraine. Avant que vous me posiez la question, je vous réponds déjà. On a aussi beaucoup observé ce que faisaient nos adversaires sur d'autres théâtres, et notamment les groupes terroristes qui ont fait preuve d'un esprit d'innovation incroyable et d'adaptation avec des moyens finalement très rudimentaires et avec des résultats absolument époustouflants. Donc, on a pris bonne note et on a copié un certain nombre de choses, en essayant de faire mieux, bien évidemment.
Vous parlez des relations, ça se passe bien quand même avec d'autres unités des forces spéciales, parce que, de fait, ce sont des gens qui communiquent pas trop sur leur process. Mais alors, certes, ils vont parler à des gens qui leur ressemblent, mais les Américains, les Britanniques vous parlent assez ouvertement. Vous arrivez à changer vraiment sur des processus ou des process de travail où les gens se gardent quand même un petit coin à eux.
On échange un certain nombre d'informations sur du matériel, sur des procédures, donc on peut partager d'ailleurs assez souvent. On partage un petit peu aussi sur les opérations, un peu moins. Et puis on garde des choses pour nous, qu'on n'échange pas. Et on sait très bien que c'est la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on sait très bien que nos homologues britanniques ne nous racontent pas tout et que nos homologues américains ne nous racontent pas tout. Et même chose pour toutes les forces spéciales du monde. Il y a toujours une petite partie, un peu secrète, je dirais. Ou en tout cas cachée.
Vous avez des binômages particuliers avec des unités comme les SEALs, par exemple, ou autres ?
Alors, on a des binômages avec les SEALs, oui, c'est un peu les équivalents des commandos français. Et dans ces SEALs, il y a des spécificités. Donc, il y a des SEALs qui mettent en œuvre des engins sous-marins. Donc là, ils sont plus proches du commando Uber. Il y a un SEAL un peu spécifique et qui est plutôt spécialisé dans le contre-terrorisme, qui s'appelle le DEVGRU, le SEAL Team 6, qui historiquement était assez près du commando Uber, mais qu'on ouvre un peu ce partenariat avec l'ensemble des commandos de l'Orient, parce qu'ils ont des groupes spécialisés en CTLO également, donc CTLO contre-terrorisme, libération d'otages. Et ces liens peuvent s'affermir au cours de missions. Voilà, parfois, on se côtoie sur des théâtres d'opérations, même si chacun garde ses missions d'un point de vue... D'un point de vue strictement national, on peut quand même se côtoyer un peu, échanger un certain nombre d'informations, voire s'appuyer un peu. Et donc ça permet de renforcer les liens. On a des liens également un peu avec les SBS, donc de Grande-Bretagne, notamment pour tout ce qui est lutte contre le terrorisme, avec les Italiens, les Incursori. C'est plus sur l'emploi des engins sous-marins, parce que historiquement, ils ont toujours été très forts dans ce domaine-là, très innovants. On leur doit d'ailleurs beaucoup de choses. Hein, ce sont un peu nos anciens pour les engins sous-marins.
Alors, dans l'imaginaire collectif, on voit beaucoup de séries avec les SEALs notamment. Vous avez eu l'occasion donc de les côtoyer. Pas la place, mais le niveau de vos commandos par rapport à ces unités qu'on voit beaucoup au cinéma ou autre, vous le situez comment ? Il n'y a pas à rougir ?
Non, il n'y a pas du tout à rougir. Après, je ne vais pas rentrer dans une comparaison qui ne voudrait pas forcément dire grand-chose, parce que je vais dire quelque chose, et puis les Américains vont dire autre chose, et puis un troisième dira encore autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas du tout à rougir. Le niveau des commandos est bon, très bon, et largement dans la moyenne des SEALs, clairement. Et je dirais même... Sans m'avancer vraiment au-dessus du niveau bas des SEALs. Voilà, on est plutôt moyenne, voire au-dessus voire très haut des SEALs. Parce que quand on parle des commandos, on a des jeunes commandos, des commandos qui arrivent dans nos unités commandos, qui sont dans ce qu'on appelle les groupes d'action spéciale, C'est là qu'on regroupe nos jeunes commandos qui sont encadrés par des plus anciens, mais donc ils ne sont pas encore très spécialisés. Voilà, c'est du combat, commando, force spéciale, je dirais, classique ou de base. Mais alors, le terme de base ne me plaît pas beaucoup, classique non plus, parce que on parle de force spéciale quand même, donc c'est du haut niveau. Mais après quelques années, et un cours et des cours supplémentaires, des sélections supplémentaires, ils peuvent accéder à des groupes spécialisés. Ces groupes spécialisés ne sont constitués que de commandos aguerris, anciens, qui ont participé à beaucoup d'opérations. Et donc, pour l'instant, chaque commando dispose d'un groupe spécialisé dans le CTLO, contre-terrorisme, libération d'otages, et d'un groupe ESNO, en gros, sont les tireurs d'élite, équipe de surveillance et de neutralisation d'objectifs. C'est là qu'on retrouve nos tireurs d'élite. Et donc là, ce sont des commandos très spécialisés. Et bien, ces groupes spécialisés, si je devais les comparer aux SEALS, ils seraient vraiment dans le haut, très haut du panier des SEALS. Ils seraient dans les meilleures unités des SEALS. Parce que ce que je vous décris en France, c'est à peu près la même chose chez les SEALS. Il y a des unités plus ou moins aguerries, dans les unités, des équipes plus ou moins spécialisées. Voilà, ben, nos équipes spécialisées sont tout en haut. Et nos équipes, initiales, les groupes d'action spéciale, sont dans la moyenne, largement dans la moyenne des SEALS. Pour dire qu'en tout cas, on n'a pas du tout à rougir de notre niveau. Pour information, les SEALS recrutent directement depuis le monde civil. Alors que nous, nos commandos, viennent du monde fusilier marin. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait un certain nombre d'affectations en tant que fusilier marin. Donc ils ont déjà été un peu guéris, ils ont déjà fait un certain nombre de missions. Ils ne partent pas de zéro, même physiquement, moralement. Ça a l'air de rien, mais c'est-à-dire que notre commando de base, il a déjà un peu de métier. Et finalement, notre rythme de sortie opérationnelle, notre rythme d'activité opérationnelle, de déploiement, est très élevé. Et pour en avoir discuté un peu avec mon homologue américain et être allé les voir, être allé voir mon homologue et avoir discuté tout ça, je me rends compte que nos gars, assez vite, ont plus d'expérience du terrain. Ils sont capables de faire, eux, des missions très longues, mais ils sont très nombreux aussi. Donc, aussi bien, ça tourne et ils n'en font pas des missions. Et ils peuvent être déployés sans avoir l'opportunité de participer à des actions. Alors, certains, oui. Certains groupes spécialisés encore plus que d'autres. Mais le SEALS de base, pas tant que ça. Et en tout cas, notre commando, encore une fois, n'a pas à rougir de son expérience et de ses compétences parce qu'il est largement dans les normes.
On va parler un tout petit peu d'avenir, Amiral. Quelles sont les évolutions marquantes qu'il y a eu sur la force ces dernières années? Ça a évolué comment?
Alors, ce qui a évolué depuis 20 ans, je dirais deux noms. Il y a deux choses. C'est qu'on a créé le commando Kieffer et le commando Pontchartier. Alors, Alors, le commando Kieffer, je vais me tromper de date, mais il me semble que c'est vers 2006-2007, par là. Bon, jusqu'à cette époque-là, il n'y avait que des commandos de combat, en fait, dans la Marine nationale. Donc, il y avait les quatre commandos l'orienté, Montfort, Pinfantagnot, Trépel, Jobert, et le commando Hubert, qui est à Saint-Mandrier. Et depuis, on a éprouvé le besoin de constituer deux autres unités de commandos d'appui. Donc, le commando Kieffer, qui apporte tous les appuis spécialisés, donc tout ce qui est drone, cyber, Sino, Explo, aide au commandement, électronique, transmission, et j'oublie certainement des choses. Donc voilà, ça c'est le commando Kieffer. Et le commando Pontchartier, qui lui est spécialisé dans les appuis lourds, donc les grosses embarcations, les gros zodiacs qui nous permettent de faire des assauts, de faire des longues navigations en mer. Le commando Pontchartier s'occupe aussi de nos véhicules tactiques, ceux qui nous permettent d'aller en opération. Donc les Velera, les espèces de Land Rover ou de Toyota adaptés pour le terrain, faire des patrouilles SAS en profondeur. Et enfin, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est parachutisme, c'est-à-dire les parachutes, le pliage, le conditionnement de tous les équipements qu'on est susceptible de faire, d'envoyer en parachute, de larguer en parachute. Et là, ça fait aussi un peu partie des spécificités des commandos, c'est-à-dire qu'on doit être capable de larguer une grande partie de nos équipements en mer. Et donc, on est capable de larguer nos gros Zodiacs, on est capable de larguer tout ce qui va avec, en fait, des Zodiacs plus petits, tous les équipements qui nous permettent de faire des opérations depuis la mer, ou depuis la mer vers la terre, ou en mer. Voilà, et ces deux commandos, ils ne sont pas constitués que de fusiliers marins. Ce n'est que pour être commando, il faut être fusilier marin, à la base, c'est un fusilier marin qui devient commando. Et bien, dans ces unités commando, Kieffer et Pontchartier, on fait appel à des marins qui ne sont pas fusiliers marins, mais qui sont spécialisés dans des domaines qui nous intéressent. Si on a quelqu'un qui est spécialisé dans les drones, dans la guerre électronique, en informatique, en mécanique, ils peuvent nous intéresser. Et donc, on les récupère, on les sélectionne. C'est sur volontariat, on les sélectionne sur des critères un peu physiques et moraux. On leur fait faire des petits stages de formation. Ils peuvent même faire le stage commando, un peu plus tard s'ils ont le niveau physique. Mais ce n'est pas obligatoire. Nous, ça nous avantage et ça nous arrange s'ils le font. Comme ça, on peut les envoyer en mission plus facilement avec le reste des commandos. Mais s'ils ne le sont pas, ce n'est pas grave. On va les prendre comme ils sont et on adaptera le job qu'on va leur confier en fonction de leur capacité. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est leur spécificité, leur compétence technique dans un domaine très particulier.
On va parler de la haute intensité. C'est un terme qui fonctionne bien. Quelle est la place aujourd'hui des commandos, les forces spéciales en l'occurrence en particulier des commandos marines, dans cet environnement de haute intensité dont on parle, avec peut-être un exemple, je mixe mes questions, avec Orion. Est-ce que les commandos marines vont être intégrés à cet exercice interarmes, interarmées et interalliés d'ailleurs en 2023?
Alors, je vais répondre à cette question sur Orion. Oui, bien sûr, les commandos vont être intégrés dans cet exercice, à double titre, je dirais, au titre de force spéciale, donc sous commandement, sous lead du commandement des opérations spéciales, et au titre de force spéciale mer au profit de la marine, parce qu'il va sans doute y avoir une opération amphibie, il y aura peut-être des opérations en bordure côtière sur le littoral, et donc la marine aura sans doute besoin de ces commandos. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler après, mais du coup je vais revenir sur la haute intensité. La haute intensité pour les commandos, comme pour les forces spéciales, ça ne change pas grand-chose. La haute intensité, on peut s'imaginer tout de suite une mêlée entre deux troupes qui vont s'affronter, et celui qui aura gagné sera le dernier survivant d'une certaine manière, ou c'est plutôt le dernier survivant sera le gagnant de cette bataille. Les forces spéciales, c'est pas du tout leur principe d'emploi, c'est pas du tout leur mode d'action. Il s'agit pas d'affronter frontalement un adversaire, c'est plutôt contourner, trouver une façon de le surprendre, de le neutraliser, mais sans s'en remettre en bataille rangée et directe et frontale. Donc, pour nous, je dirais que la haute intensité n'a pas changé grand-chose, si ce n'est qu'on affronte, c'est se préparer à affronter un ennemi de meilleur niveau que celui qu'on a affronté jusqu'à maintenant, ces dernières années. Puisque ces dernières années, on peut considérer que les opérations spéciales se sont en grande partie concentrées sur la lutte contre les terroristes, et donc ce n'était pas des forces étatiques, c'était des forces coriaces, mais qui ne disposaient pas de tous les moyens, qui n'avaient pas de moyens anti-aériens, qui n'avaient pas d'avions, qui n'avaient pas tous les moyens dont dispose un État. Et donc maintenant, il faut se préparer à affronter des forces de niveau, je dirais, étatique, donc qui disposent de la panoplie complète des parties offensives et défensives dans tous les domaines, multimilieux, multichamps. On en parle pour nos modes d'action. Nos adversaires font exactement la même chose. Et donc, c'est à ça qu'il faut se préparer. Et du coup, il faut qu'on soit encore plus performant qu'on l'était jusqu'à maintenant. Il faut qu'on puisse être encore plus discret. Il faut qu'on puisse venir d'encore plus loin. Il faut qu'on puisse être encore plus létal. Il faut qu'on puisse, inscrire notre manœuvre en cherchant l'appui d'un certain nombre d'éléments qui vont nous aider à gagner la supériorité localement et sur un temps court. Parce que notre principe, c'est toujours ça, c'est d'être à un moment donné, à un lieu donné, plus fort que l'adversaire, pour lui donner un coup avant de s'exfiltrer. Et donc, pour avoir toujours cette possibilité, Sans doute qu'il va falloir qu'on s'appuie sur des moyens plus larges que ceux qu'on avait jusqu'à maintenant, soit des moyens propres aux opérations spéciales, mais aussi des moyens qui viendront des unités plus conventionnelles, des armées, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace, ou de l'armée de terre. Pour revenir à ce que ça peut changer, par exemple, dans nos rapports avec la marine, cette haute intensité, c'est essayer d'apporter notre pierre à l'édifice dans le combat naval. Voilà. Et le combat naval, alors en haute mer, on ne sera peut-être pas très efficace, mais peut-être qu'on peut l'être plus quand on est à proximité des côtes. On peut sans doute se rendre utile pour la marine. J'en dirai pas plus ici, mais on peut sans doute apporter des capacités utiles pour la marine.
Tout ça, c'est des choses qui potentiellement pourront être travaillées à Orion, alors ?
Orion a pour objectif de travailler ce type de nouvelles procédures et de nouvelles coopérations entre les commandos marines et la marine en particulier. Mais pas uniquement, ça sera valable pour toutes les composantes des armées.
Vous, en tant que patron des commandos, quelles sont vos priorités sur les prochaines années est-ce qu'il y a des points particuliers sur lesquels vous allez faire travailler vos gars ou vous les faire évoluer, les commandos?
Alors, d'abord, on travaille en permanence à faire évoluer nos entités. Donc, on poursuit cet effort de transformation ou d'adaptation permanente. Si je vais dire un point essentiel, c'est la RH. Je vais peut-être vous surprendre, mais au-delà de toutes les techniques, tout ce qu'on peut utiliser, technologie, les équipements qu'on peut nous payer, le métier de force spéciale, c'est bien un métier d'humain. À la fin, il y a bien un homme qui prend des risques, un homme ou une équipe d'hommes qui prennent des risques et qui vont vers un adversaire et qui vont conduire leur mission. Donc cette ressource RH, cette ressource humaine pour nous, elle est essentielle. Et elle fait l'objet de toutes nos attentions. Le recrutement et la formation et la fidélisation. C'est vraiment quelque chose de vital pour nous. On ne peut pas se permettre de faire une coupure dans le recrutement, par exemple. Sinon, tôt ou tard, on n'existera plus. Donc il faut qu'on recrute. Et recruter, donc il faut faire de la communication pour ça. Il faut expliquer quel est notre métier. Il faut convaincre. Il faut séduire, d'une certaine manière, des jeunes de venir nous voir. Et ensuite, qui rentrent, qui se confrontent à notre système de sélection. Et puis on en garde. On garde les meilleurs, les plus motivés. Et ensuite, on les forme et on essaie de les fidéliser. Ça, c'est le premier effort. Le deuxième effort, c'est un effort capacitaire. C'est-à-dire continuer à améliorer nos équipements en permanence. On voit que La techno maintenant, la technologie de façon générale, c'est quelque chose qui se partage, qui est grand public. Tout le monde peut y accéder via Internet, via toutes les sources d'approvisionnement en parallèle. On peut même parler de prolifération de technologie, en fait. La prolifération de technologie d'armement très complexe. Jusqu'à maintenant, on parlait de Kalachnikov et éventuellement de lance-roquettes sur les théâtres d'opération. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça. On voit des groupuscules terroristes qui accèdent à des missiles, à des drones, et qui peuvent faire des dégâts considérables à des forces pourtant très bien équipées, mais qui doivent faire. Donc, face à ce type de menace, maintenant, tout azimut, en tout temps, en tout lieu, je dirais.
Pour terminer, Amiral, on va parler un petit peu d'hommes. Alors, vous avez déjà largement anticipé mes questions sur le futur et sur vos priorités, sur la RH. J'aimerais juste, tout d'abord, il a quelle tête, le commando ? Si vous deviez le décrire, il ressemble à quoi, le commando marine ?
Ben, il a une tête sur les épaules, je dirais. Commando marine, c'est ça, c'est comme ça que je le dirais. C'est quelqu'un qui est plutôt bien, qui est équilibré, qui est un gars qui est à la fois physique, une bonne force morale et une bonne agilité. Donc agilité à tous les points de vue. Et donc une intelligence de situation, je dirais, importante. Donc quelle tête il a ? Je dirais qu'il a une tête normale. Et donc les commandos sont pas les militaires qui ont les cheveux les plus courts, bien évidemment. Mais, enfin, je le reconnais. Mais c'est pas non plus provoqué de leur part. C'est pas pour être provocant de leur part. C'est parce qu'ils sont bien comme ça et que ça fait... C'est parfaitement admis comme ça dans toute la marine. D'ailleurs, les marins sont pas très, ont des têtes à peu près standards. Bon, ils ont des commandos, ont des têtes de marins de marins. Voilà, un peu buriné par le sel, un peu par la mer, par le sable aussi, parce qu'ils vont à terre.
Il a une vie de famille, le commando ?
Alors, le commando, il peut avoir une vie de famille, comme tout un chacun. Une famille qui doit être assez solide, il faut l'admettre. Une conjointe, parce que pour l'instant, les commandos sont tous des hommes. Même si c'est ouvert aux femmes, il n'y a que des commandos hommes. Remarque, il y a des femmes qui servent dans les unités commando, et dans les spécialités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en tout cas, il doit avoir une conjointe ou un conjoint solide, qui tient la maison quand le commando part, parce qu'il peut partir assez longtemps sans donner beaucoup de nouvelles. Donc, il faut que la maison, d'une certaine manière, soit tenue, s'occuper des enfants, s'occuper du quotidien et faire preuve d'un vrai courage. Donc, le commando, il peut avoir une vie de famille et c'est même souhaitable pour son équilibre. Et il faut qu'il ait la chance de tomber sur une famille solide. Voilà, je reconnais que c'est pas forcément donné à tout le monde, mais c'est un peu comme toutes les familles de militaires, parce que tous les militaires sont susceptibles de partir loin, un peu longtemps, sans trop donner de nouvelles. Et donc toutes les familles font preuve de cette solidité, capables de se débrouiller tout seul, de faire face. Et j'avoue que, à titre personnel, je leur tire vraiment mon chapeau, parce que c'est pas facile. On les place dans des situations qui sont compliquées.
Vous parliez de priorité sur la RH et de communication. Et justement, c'est une de mes questions. Comment recruter donc, en communiquant autour d'une mission dont on ne peut pas parler et d'un métier dont il est très compliqué de parler, ou en tout cas la marge est assez fine?
Alors, on ne peut pas parler de nos missions. En détail, on peut parler du type de mission et on peut parler de notre métier, de nos entraînements. On peut quand même montrer un certain nombre de choses. J'aurais même tendance à dire que les commandos marines sont une source d'image séduisante pour les jeunes qui veulent un peu sortir de leurs écrans. Je pense qu'assez rapidement, on peut faire rêver un peu rêver des jeunes. D'ailleurs, ça peut avoir un effet négatif, c'est-à-dire qu'on peut faire croire que c'est accessible facilement. Bon, généralement, ça ne dure pas très longtemps, mais certains jeunes peuvent s'imaginer ou se projettent tout de suite dans un rôle de commando, sauf qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait des étapes intermédiaires. Bon, ça rapidement, ils l'apprennent. Mais en tout cas, pour d'autres, c'est très efficace, parce que ça leur montre qu'on existe et ça leur montre le type de métier qu'on peut exercer. Et je pense qu'on est capable de montrer quand même des images qui décrivent bien notre métier, sans aller dans le détail de nos missions.
Il y a eu récemment des morts qui sont devenus des héros, chose dont on n'entendait plus parler, enfin assez peu dans la presse. Le culte du héros avait un petit peu disparu. Est-ce que c'est important de remettre ça un petit peu au centre de l'ouvrage et de montrer, hélas, que la mission, elle va jusqu'au bout et qu'il y a des gens, il y a des vrais héros aujourd'hui qui sont... Est-ce qu'il faut en parler ? Est-ce qu'il faut le montrer ? Chose qu'on fait assez peu, enfin qu'on faisait assez peu en France, qui se faisait beaucoup, notamment outre-Atlantique.
Alors moi, je pense que c'est une bonne chose de montrer en exemple ceux qui se donnent, qui se sacrifient pour la pays. Donc forcément, de mettre à l'honneur des commandos comme Alain Berton-Cello et Cédric de Pierrepont me semble être une très bonne chose. Ce ne sont pas les seuls, évidemment, et il n'est pas nécessaire de mourir pour être un héros, mais c'est quand même ceux qu'on va mettre le plus en évidence, parce qu'eux ont été jusqu'au bout. Et ça me semble vraiment intéressant pour le pays de les montrer en exemple. Ça me semble intéressant de montrer que nos gars sont prêts à aller jusqu'au bout. Mais ce qui me semble intéressant aussi de montrer, c'est que les camarades de Cédric et d'Alain, s'il fallait refaire cette mission, la referait sans hésiter. Ce qui me semble important, c'est d'expliquer que Alain et Cédric, s'il fallait refaire cette mission, la referaient sans doute, sans hésiter aussi. Et donc, ce qui est important, c'est de montrer la résilience de ces gars-là, la force de leur engagement, au moment où notre pays peut se poser des questions parfois, hésiter, avoir un peu peur de certaines choses qui peuvent nous arriver ou de certains défis. Il ne faut pas. En fait, on a des gars qui sont capables de surmonter ça. Et donc, en tout cas, et sans doute que la majorité des Français sont capables de surmonter des grandes choses. Simplement, il faut en prendre conscience. Et le fait de montrer des exemples comme ça, ça me semble bien pour les raffermir, pour leur redonner confiance. Et c'est valable pour le grand public, et c'est valable aussi pour nos autorités. C'est, voilà, le pays a traversé des moments durs, très durs. Quand on pense à la Première Guerre mondiale, quand on calcule en moyenne le nombre de morts qu'on a eu par jour, sur 4 ans, je crois que ça n'a jamais été à ce rythme-là, mais c'était l'équivalent de 1000 morts par jour pendant 4 ans. Il faudrait peut-être vérifier ces chiffres-là, mais c'est globalement les chiffres que j'avais retenus de mes cours, vous voyez, quand j'étais au collège. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. Non pas que je me disais, ah ben, on va tous mourir. Non, non. C'est qu'à un moment, la France a fait cet effort. Donc, si elle a un jour, elle a été capable de le faire, on est capable de faire d'autres efforts. Et pas forcément tous mourir, mais en tout cas, de faire des efforts, de se retrousser les manches pour faire que le pays aille bien, aille mieux, et affronter nos adversaires et défendre nos valeurs.
On voit beaucoup, de plus en plus en tout cas, de militaires et d'anciens des forces spéciales qui communiquent, qui ont des chaînes YouTube, qui sont très ouverts au public et très médiatisés. Votre avis là-dessus, Amiral ?
Eh ben, mon avis, c'est que tant qu'ils parlent de ce qu'ils connaissent et tant qu'ils parlent de la force en bien, moi, j'y vois que des aspects positifs. Mais il y a deux écueils, quoi. Enfin, il faut qu'ils se limitent aux aspects et à leur niveau, enfin, aux aspects qu'ils connaissent et qu'ils maîtrisent bien. Il ne faut pas qu'ils se fassent piéger à parler de sujets qui ne sont pas les leurs. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient aigris contre la force ou que je ne sais pas, pas qu'ils aient des ressentiments ou quelque chose qui fasse qu'ils parlent de nous négativement de façon injustifiée. Mais voilà, sinon moi j'en suis très content, ça nous fait de la publicité et donc ça nous fait connaître et donc ça fait venir des jeunes qui poussent la porte pour voir qui on est et éventuellement s'engager. Généralement, d'ailleurs ils s'expriment très bien dans les médias et parlent de choses qu'ils ont vécues et donc c'est très appréciable. Enfin moi, je ne suis pas un jeune de cette génération-là à traîner sur les réseaux sociaux, mais j'en sais suffisamment pour trouver que c'est en tout cas efficace.
On parle de jeunesse, justement. Si vous deviez refaire votre stage co ou votre cours nageur, je ne sais pas, le choisissez ou les deux, qu'est-ce que vous feriez de différent aujourd'hui avec votre expérience, votre recul ?
Ben moi, je ne referais rien de différent, en fait. Je referais tout pareil. Et si c'était à refaire, je le referais. Et pour information, j'ai un garçon qui va commencer ce cycle là de commando qui a déjà passé un certain nombre d'étapes et de le voir, j'en suis très heureux. J'en suis même vraiment particulièrement heureux. Très fier de tous mes garçons et toutes mes filles, mais là, je suis un peu spécifiquement heureux de ça. Je suis pas très heureux des autres aussi, hein, mais il faut pas leur dire sinon. Mais en tout cas, c'était un... En tout cas, je suis content de voir que la joie que j'ai pu exprimer, l'épanouissement qui a été le mien à travers ce métier et mon engagement à porter auprès de lui. Et donc, de voir qu'en tout cas, ça ne l'a pas dégoûté, malgré mes absences et mes questionnements ou les questionnements de sa maman, donc en l'occurrence mon épouse, qui pouvait être un peu esselée parfois, la pauvre. Moi, je referais tout pareil. Et ce qui est curieux, c'est qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on passe à travers ces étapes et à travers les missions, que d'autres peuvent être un peu inquiets pour nous. On ne l'est pas forcément beaucoup pour soi. Donc, il y a peut-être un aspect égoïste ou personnel. J'utilise peut-être des termes un peu trop excessifs, mais en tout cas, on croit toujours à sa bonne étoile. Et on espère qu'à partir, quoi. Et je suis déjà en train de me projeter dans quelques années, si par hasard mon fils est commando. Et donc, je me demande comment là je réagirai le jour où je sais qu'il partira en mission, parce que forcément, ça sera aussi son métier de partir en mission. Je serai fier de lui, mais je pense que je serai beaucoup plus anxieux pour lui que je ne l'étais pour moi.
Pour terminer, alors, bon, là, ça, le parcours de votre fils casse un peu ma question, mais parce qu'en fait, je voulais vous demander si l'amiral de Briançon repartait en 89 et rencontrait l'aspirant de Briançon, qu'est-ce qu'il lui donnerait comme conseil ? Bon, là, vous en parlez aussi avec votre fils. Mais voilà, si vous reveniez en arrière et que vous verriez, vous retrouviez plus jeune, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ?
Alors, je peux dire ce que je dis aux jeunes actuellement, ce que je me dirais à moi, fonce, parce que je sais que j'aurais pas besoin, parce que je me connais aussi en 89, donc je sais que j'aurais pas besoin de convaincre sur l'intérêt du métier, de l'engagement, de la force d'engagement. C'est des choses qui m'habitaient sans doute déjà un peu, même si ça se développe après avec le temps. Mais donc, il suffirait, en fait, la question, ça serait simplement de m'enlever un doute éventuel, de dire pas de doute, fonce, vas-y. Et par contre, ce que je dis aux jeunes de maintenant, ce que j'explique aux jeunes, c'est justement de se préparer physiquement et moralement. Enfin, là aussi, je ne rentre pas dans les détails de l'intérêt de notre mission, de notre engagement. Je considère que s'ils sont déjà un peu volontaires, c'est qu'ils ont déjà cette petite étoile dans la tête. Il y a quelque chose qui les guide un peu. Mais en revanche, pour les aider à se préparer, de se préparer physiquement et moralement. Et se préparer physiquement, c'est se préparer à en baver un peu, quoi. Donc à courir plutôt, enfin, faire des choses un peu éprouvantes. C'est pas faire du sport, là je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément faire du sport de très haut niveau ou faire du crossfit pour avoir un corps en V. C'est plutôt être capable de courir sous la pluie avec un sac, crever, avoir faim, soif, sommeil. C'est plutôt là que c'est intéressant.
Merci beaucoup, Amiral.
De rien.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochaines diffusions. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite pour un prochain épisode.